Question d'assaut.
Le podcast par et pour les assauts. Dans le monde associatif, on s'engage dans des secteurs qui souvent sont éloignés, voire très éloignés de nos propres pratiques professionnelles. À l'inverse, il y a des associations qui s'ancrent dans des univers et pratiques professionnelles bien spécifiques. C'est notamment le cas des associations tech autour du développement de l'open source et des logiciels libres. Qu'est-ce que cela produit comme projet associatif? Comment concilier intérêt général et intérêt privé, voire économique? Quid de la gouvernance et de l'inclusion des usagers et usagères finaux qui n'ont pas forcément les compétences techniques? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 26e épisode de Questions d'Assaut, le podcast par et pour les associations. Et pour aborder cette thématique, nous recevons le président de l'association World Press francophone, Jason. Bonjour Jason.
Bonjour Yael.
Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Karl. Hello Karl.
Salut Yael.
Cet épisode de Questions d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud et Peertube. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web questionsdassaut.fr. Questionsasso.com, où vous trouverez une version textuelle de ce podcast. Et nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso. Installez-vous confortablement et c'est parti! Retrouvons Karl pour l'édito.
Merci Yael. Aujourd'hui, on va parler de WordPress, le logiciel d'édition de sites web le plus utilisé au monde. Il s'avère que WordPress est ce qu'on appelle un logiciel libre, c'est-à-dire un logiciel que chacun peut modifier, éditer ou transformer. Et donc, de très nombreux développeurs utilisent WordPress à travers le monde, dans des contextes très variés. Évidemment, qui dit écosystème d'acteurs dit association. En France, la principale association, c'est WordPress France, que dirige donc Jason. Sauf que WordPress France n'est pas une association dans un écosystème classique, puisque ce n'est pas une association militante, ni une association qui aurait une délégation de service public. C'est une association qui regroupe des professionnels, ici des développeurs, qui s'intéressent à la promotion de leur logiciel, c'est-à-dire à la promotion de leur activité professionnelle. Et évidemment, poser ce contexte va de pair avec des pratiques et une vie associative qui est, on va dire, étonnante, et c'est ce dont on va parler avec Jason. En fait, au fond, le sujet ici dont on va parler, c'est celui du parcours associatif en tant que professionnel. Ce qui est marquant dans ces écosystèmes, c'est que bien souvent, on rejoint ces associations par intérêt professionnel. Être dans l'association des développeurs ou des designers d'un tel contexte, d'un tel logiciel, c'est se constituer un réseau, c'est faire sa veille pro, ou encore c'est se faire remarquer par la communauté en devenant un contributeur au logiciel commun. On en arrive donc ici à un autre sujet qui va être intéressant de creuser avec Jason, celui de l'organisation de l'univers associatif du logiciel libre, donc ces logiciels qu'on peut modifier, transformer librement, comme je le disais, mais qui pour autant sont développés par des gens qui sont des professionnels sur leur temps de travail. Et donc, puisque ces logiciels sont bien souvent eux-mêmes portés par des associations, ça va être intéressant de regarder quels sont les liens entre toutes ces associations, parce qu'en fait, ce n'est pas nécessairement la même qui porte le logiciel que celle qui accueille la communauté. On commence à comprendre que ça va être compliqué. Et donc, c'est de ça qu'on va parler avec Jason aujourd'hui, et on est très heureux donc de t'accueillir pour ça. Rebonjour Jason.
Bonjour.
Et on va passer à la carte d'identité de WordPress FR avec Yael.
Merci beaucoup Karl pour cet édito et bonjour Jason, merci d'être avec nous. Et effectivement, ce qu'on te propose, c'est de commencer cet épisode par la carte d'identité. Donc c'est un exercice qu'on propose à toutes les personnes, à toutes les structures qui passent au micro de Questions d'Assaut pour permettre un peu aux auditeurs et aux auditrices de vous replacer dans le grand paysage, le vaste paysage associatif. Alors, est-ce que tu es prêt?
Ouais, salut Yael.
Yes, alors première question. Assez simple. Est-ce que tu peux nous dire, Jason, qu'est-ce que vous faites à WordPress?
Alors, donc, moi, je suis le président de l'association WordPress francophone. Donc, WordPress FR, WordPress France. on va utiliser francophone, histoire d'utiliser le même mot. Nous, on est l'association qui représente les utilisateurs de WordPress en France, principalement. On est une asso qui date de 2008, mais en fait sur une activité à la base qui était le forum, un forum web d'entraide à l'utilisation de WordPress, donc le logiciel WordPress pour faire des sites internet, qui lui était un peu plus ancien, qui a été monté en 2006 environ. Donc l'asso est venu pour compléter de façon assez classique le besoin d'avoir un compte en banque pour payer un nom de domaine, un hébergement web, quelques trucs comme ça. Puis assez rapidement les premiers barcamp, meet-up autour de WordPress qui lui date de 2003, donc qui était assez récent en fait quand l'asso a été monté. Voilà, globalement, ça, c'est l'historique. Aujourd'hui, l'asso, elle a beaucoup évolué, parce que depuis 2008, forcément, il y a eu pas mal de changements, déjà dans le logiciel, et aussi dans la structuration de la communauté, et puis de la contribution tout autour, dont on parlera sûrement après. Et aujourd'hui, on soutient les événements communautaires, et nous, plus spécifiquement, on organise les journées de contribution qui se font avant chaque... événements, donc dans notre écosystème, ça s'appelle les WordCamp, pour WordPress Camp, donc pour aider les gens à contribuer à ce logiciel, en fait, directement.
Et alors, si je...
En plus du site web, qui existe toujours, du coup.
Si je peux te pousser à préciser, ouais. On est d'accord que vous n'organisez pas pour autant les événements WordPress en France.
Ouais. En France, les événements officiels, les WordCamp sont, et les meet-up aussi, sont organisés par des bénévoles en dehors de l'asso, directement avec la fondation américaine qui couvre, on va dire, la partie logistique. Mais c'est assez auto-organisé, on va dire, si on peut dire ça comme ça. C'est n'importe qui dans sa ville peut lancer un meet-up et après, au bout de quelques années, faire un événement plus officiel. Nous, on soutient ça en faisant les journées de contribution spécifiquement, mais plus les événements directement. Ce qui était le cas des tout premiers à Paris, vers, 2008-2010, c'était encore l'asso, et puis après, progressivement, s'en est sorti.
Ça me semble faire une bonne transition avec la deuxième question, qui est justement comment vous êtes organisé, parce que là, alors, tu as parlé d'une fondation,
ouais.
Tu as parlé de bénévoles auto-gérés tout seuls. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, du coup, WordPress francophone, combien vous êtes? Comment s'organise la gouvernance et du coup les articulations avec les autres structures?
Ouais. Pour l'asso en tant que telle en France, donc WordPress francophone que je préside, c'est une asso assez classique. On a entre 50 et 100 membres selon les années. Alors aujourd'hui, voilà, ça dépend un peu, est-ce qu'on a fait des campagnes de recrutement ou est-ce qu'on était un peu trop occupé pour s'en charger. En ce moment, c'est entre 50 et 60. Là, c'est assez stable depuis quelques années. On est organisé de façon très classique, je pense. C'est-à-dire que chaque année, il y a une AG. Les membres qui ont leur adhésion à jour votent pendant l'AG pour les membres, pour les administrateurs et les administratrices qui seront membres du CA, qui, à son tour, se réunit et élit le bureau. Donc aujourd'hui, le bureau, on a fait un choix d'avoir que trois personnes, donc un président, un vice-président et une trésorière. Par contre, le CA, c'est 21 personnes depuis l'année dernière.
Ah oui, c'est la moitié de l'asso, en fait.
Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, entre la moitié et un tiers. Mais ça, c'est très récent depuis l'année dernière. Donc moi, j'ai été élu président à ce moment-là. Et c'était un souhait de renouveler aussi cet organe pour que l'asso se redéveloppe. Mais avant, on était, sur les années précédentes, on était 6 ou 7 au CA, et finalement, le CA se confondait avec le bureau. Finalement, les membres actifs du CA étaient le bureau. Enfin, voilà, je pense que c'est un truc assez classique. Donc là, on est sur une redynamisation aussi de l'asso qui explique qu'on est allé chercher beaucoup de monde pour rentrer au CA pour apporter des expertises et puis des idées, ce qui fonctionne assez bien pour l'instant. Bon, ça, c'est récent aussi.
Et alors, vis-à-vis des autres organisations WordPress ?
Ouais. Alors, nous, la spécificité, c'est qu'on n'a pas un lien officiel. C'est plus un peu historique. C'est-à-dire que, pour refaire un peu en quelques dates, WordPress a été fondé en 2003. C'était, pour les plus techniques d'entre nous, c'était un fork d'un logiciel qui existait déjà, qui s'appelait B2, qui était fait par un Français.
Est-ce que tu peux préciser ce que c'est un fork pour les non-initiés?
Il y avait un Français qui s'appelait Michel Valdrigui qui avait développé B2. Et comme c'était du code open source, eh ben, Michel, alors que je ne connais pas directement, mais je vais l'appeler Michel quand même, il a arrêté, il me semble, d'utiliser ou de développer son logiciel. Et donc, comme c'est open source, ça a été repris et redéveloppé pour continuer, en fait, une sorte de filiation du code initial qui a été forqué, on dit. Donc, il y a eu, en fait, voilà, il y a eu une continuité vers un nouveau logiciel qui s'appelait WordPress après. Bon, voilà, ça, c'est un peu le côté ultra historique pour dire que, ben, finalement, WordPress, c'est un peu français. Mais, mais ça n'a pas de lien directement. Mais bon, voilà, c'est un peu un petit moment franchouillard. Et après ça, en fait, WordPress a été développé notamment par Matt Mullenweg, un Américain, qui, lui, a aussi fondé une société automatique qui utilise WordPress, et automatique, ils utilisent WordPress pour faire WordPress.com, mais le projet open source, lui, c'est sur WordPress.org. Donc déjà, il y a cette dimension-là. C'est-à-dire qu'en gros, WordPress.com, c'est une plateforme de blog à l'origine, pour n'importe qui. C'est le modèle SaaS du logiciel open source qui, lui, est sur WordPress.org, que n'importe qui peut télécharger pour créer son site.
Peut-être pour expliciter pour celles et ceux qui ne sont pas dans le monde de l'informatique, ça sous-entend que WordPress, donc, c'est le logiciel, qui a un commun numérique que n'importe qui peut télécharger, modifier, réexploiter. Et donc, le fondateur de ce logiciel en a par ailleurs fait une entreprise à côté du logiciel libre qui, elle, propose à qui veut bien payer pour
des services d'hébergement et de création de son site sans avoir à mettre les mains, on va dire, dans le code. C'est ce qui a permis aussi de soutenir le développement de WordPress rapidement pour permettre notamment à Matt, lui, d'en vivre, de continuer à développer ça, d'avoir des équipes et donc de contribuer à son tour au logiciel. Et donc, voilà, pour faire la filiation jusqu'à notre asso qui nous concerne. Donc, 2003, c'est la création du logiciel, on va dire. 2006, c'est la création de la marque WordPress en tant que telle. Avant, c'était pas, voilà, c'était juste le nom du projet, mais c'était pas déposé aux États-Unis, etc. Et nous, en 2008, il y a eu la création de l'association en France. Et en 2010, il y a eu la création de la fondation WordPress, qui a récupéré la marque, notamment, enfin en tout cas, la propriété de la marque WordPress. Et la fondation, elle sert aussi de soutien logistique à l'organisation des événements WordPress dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez monter un meet-up ou un événement dans votre ville, c'est la fondation qui va gérer les budgets de ces événements-là, les assurances, les questions de propriété, de marque, etc. Et c'est alors que jusqu'à la création de la fondation WordPress, en gros, l'asso francophone gérait ça en France, notamment les premiers WordCamp à Paris, les premiers barcamps, etc., de développeurs ou d'utilisateurs d'ailleurs. Il n'y avait pas forcément que des techniques. C'est assez nébuleux. On en a conscience, mais c'est aussi ce qui fait la richesse du projet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui contribuent et donc il y a beaucoup d'organisations différentes et je ne parle même pas des entreprises encore pour l'instant.
Mais ce que ça veut dire, c'est aussi que finalement, dans cet écosystème, WordPress francophone est une des structures qui est la moins connectée au reste de cette organisation, de cet écosystème.
Ouais, progressivement, en fait, nous... En fait, l'asso, à l'origine, gérait aussi les traductions en français de WordPress, gérait les événements en français. C'était le site principal d'actualité autour de WordPress. Et progressivement, ça a été soit les personnes qui étaient dans l'asso qui faisaient ça ont arrêté, et du coup, les personnes qui ont continué après le faisaient en dehors de l'asso. Soit c'est des choix qui ont été faits de ne plus faire ce genre d'activité parce que derrière... il fallait être membre de l'asso pour pouvoir contribuer à la traduction en français, ce qui n'avait pas forcément de sens. Et finalement, c'est WordPress.org qui est devenu le lieu de contribution générale. Soit, tout simplement, il y a des périodes où l'asso, les personnes qui étaient dans l'asso étaient moins actives. Et du coup, au lieu de plus faire d'événements, les événements se sont autonomisés en dehors de l'asso grâce à la fondation américaine qui portait le même programme dans tous les pays, dans le monde entier, en fait, pas qu'en France spécifiquement. Donc, il y a eu aussi une mise en cohérence des événements. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, à la différence, par exemple, d'un autre modèle comme Wikimedia en France, qui est une asso française, mais qui est un chapitre officiel de la Wikimedia Foundation, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Peut-être qu'un jour, vous les interviewerez, et puis voilà. Mais en tout cas, eux, ils ont un rôle officiel, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle officiel par rapport à la fondation américaine. Nous, la WordPress francophone n'a plus de lien parce qu'en fait, il n'y a plus besoin, et puis parce que voilà, c'est plus historique. Mais aujourd'hui, ce qu'on développe, c'est en complément de ce que fait la fondation américaine qui a plus une portée internationale.
Merci beaucoup, Jason. Et puis, je pense qu'on va y revenir parce qu'effectivement, là, moi, j'ai plein de questions sur le volet bénévolat et contribution, je pense, au libre, ce qui va rentrer complètement dans le thème de l'épisode. Donc, on va peut-être y revenir dans le cœur du déroulé. Mais peut-être avant ça, est-ce que tu peux du coup nous dire comment vous êtes financé et peut-être aussi juste avoir une idée, tu vois, un peu globale de votre enveloppe j'allais dire budgétaire.
En fait, les choses sont assez simples. C'est qu'on a vraiment un tout petit budget. De l'ordre de, je sais pas... on doit avoir des flux financiers sur nos comptes autour de 10 000 euros par an, entre les entrées et les sorties. Je pense que c'est dans ces eaux-là, quoi, pour donner une idée. Mais c'est un peu trompeur pour deux choses. C'est que, on ne valorise pas du tout le bénévolat dans nos budgets pour le moment, même si, grâce aux épisodes de Questions d'Assaut, j'ai appris plein de trucs et que j'aimerais bien qu'un jour on réussisse à faire ça, mais ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de...
Tu viendras nous en reparler à ce jour-là, alors.
Ouais.
Et j'avoue plaisir. Que même chez nous, on le fait pas encore.
Hein. C'est surtout que ça demande à chacun d'être responsable du suivi de son temps. Comme la plupart des gens qui sont dans l'asso sont soit des freelances, soit bossent en agence ou en entreprise, on le fait déjà dans notre entreprise de pointer entre guillemets notre temps souvent. Du coup, je pense pas. Enfin voilà, ce serait difficile aussi de demander à tout le monde de le faire. Bref, ça c'est un premier sujet. Mais en tout cas, peut-être pour les membres du CA, il faudrait réussir à faire, je sais pas, une règle de calcul, un truc même approximatif pour pouvoir valoriser ça dans les budgets. Mais comme on ne demande pas de financement public, quelque part, ça ne nous est pas vraiment très... ce serait plus un exercice de style, mais ça ne nous aiderait pas spécialement plus que ça, quoi. Nécessaire, quoi.
Ce budget, c'est plutôt des dons.
Ce budget, c'est les adhésions, parce que du coup, on est ouvert aux adhésions. Il n'y a quasiment pas de dons. Par contre, on a des dons en nature. Et ça, c'est le deuxième volet de notre financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos budgets, ne rentre pas un certain nombre de dons en matériel. Par exemple, les serveurs de l'asso qui permettent d'héberger les sites. On a un serveur dédié qui coûte plusieurs milliers d'euros, je pense, par an. J'ai plus le chiffre en tête. Enfin, on a une belle architecture de serveurs. Et ça nous est gracieusement offert par The Switch, qui est un des partenaires avec qui on travaille, notamment. mais ça pourrait être aussi les journées de contribution. Tout le budget de défraiement qu'on fait maintenant, hôtels, déplacements, etc., des bénévoles de l'asso, c'est totalement couvert par des entreprises qui sponsorisent du coup la journée. On a la chance en plus qu'ils nous demandent, enfin, s'ils m'écoutent, ils vont me demander des trucs maintenant, mais ils ne nous demandent quasiment aucun retour sur l'investissement, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça.
Aucune contrepartie.
Il n'y a pas de contrepartie à part afficher leur logo, quoi, et les introduire au début de la journée, ce qui est le minimum qu'on puisse faire pour les remercier.
Bah, ce qui, du coup, fait que c'est vraiment du mécénat et pas du sponsoring.
Je pense que ça rentrerait plus dans du mécénat et moi, je leur ai proposé de faire, de commencer à travailler à des chartes de partenariat aussi pour qu'on s'engage sur des budgets pluriannuels. Aujourd'hui, je pense que le budget fait que ce n'est pas encore nécessaire de formaliser à ce point-là. Mais ce serait pas mal, en fait, même pour les valoriser, en fait, tout simplement. Donc, on a un budget de fonctionnement sur fonds propres parce que on a eu quelques années où il y avait moins d'activités, mais toujours des adhésions. Donc, on a une sorte de trésor de guerre qui n'est pas non plus énorme, mais qui nous permet de pouvoir faire des investissements si on a besoin de lancer de nouveaux programmes. Et après, par contre, on va plutôt, nous, aller chercher des financements directement auprès des entreprises de l'écosystème, qui sont demandeuses en plus de lancer des choses. Aujourd'hui, enfin, c'est, à différence d'autres assos, nous, on n'a pas de problème de financement. C'est plus problème de temps pour lancer des choses et aller chercher les acteurs qui vont nous aider à financer ça. On est plus dans cette démarche-là, alors que souvent, c'est plutôt l'inverse. On a les programmes et on a besoin de financement pour les faire perdurer. J'ai l'impression, en tout cas. En tout cas, sur notre niveau, peut-être aussi. Hein, on n'est pas sur des budgets très, très importants.
Top, merci beaucoup Jason, et je pense que là on peut justement rentrer dans le cœur du sujet, précisément par rapport à ce que tu viens de dire là sur les financements, parce qu'il me semble qu'une des questions, en tout cas que moi j'ai envie de te poser, c'est précisément aussi de revenir sur le pourquoi de l'asso. Et du coup, l'engagement, le pourquoi les gens s'engagent dans cet asso, surtout que, si je ne me trompe pas, mais je connais, on va dire, un peu de loin, on va dire, cet écosystème des devs et pas que des devs, mais il y a déjà une culture de contribution qui peut se faire hors du cadre associatif.
En fait, c'est intéressant parce qu'on a fait un week-end associatif pour préparer l'AG et le fait que qu'il y a un passage de flambeau entre le président précédent et moi. On a fait un week-end associatif avec l'idée de revoir complètement de définir en tout cas pourquoi l'asso elle existe, qu'est-ce qu'on veut faire, parce que mine de rien, l'asso commençait à être un peu ancienne, avec des changements d'équipe assez réguliers. Et puis surtout, ce que j'expliquais au début, une évolution aussi de notre communauté qui fait que les actions qu'on avait ont évolué, n'étaient plus nécessaires ou en tout cas étaient peut-être à remettre en question, etc. Et on a défini en fait trois objectifs principaux pour l'asso, qui étaient la transmission en fait des valeurs de l'open source, l'engagement associatif, les relations humaines dans les événements, etc. Le fait de faire communauté, finalement. Ça, on a défini que c'était quand même un grand pilier qui avait après le côté rayonnement plus proche du logiciel en tant que tel. C'est-à-dire, nous, notre but, c'est on est convaincu que WordPress est un logiciel qui peut permettre aux gens d'être plus autonome, de mettre des sites en ligne et de mettre leurs écrits en ligne, de diffuser de l'information, etc. Vu la période des fake news et compagnie, on trouve que c'est quand même une valeur qui n'est pas négligeable. Et puis, il y a la facilitation plus générale, le soutien à la contribution, soutenir l'émergence de projets locaux qui utilisent l'open source, WordPress en particulier, mais ça peut être d'autres choses qui sont liées. Donc ça, c'est un petit peu la mouvance dans laquelle on se place. Et à partir de là, on a fait d'autres ateliers plus sur les cibles, voilà, définir les cibles, définir les prochaines actions, et puis un plan d'action après associatif à partir de là, quoi, qui a commencé à être mis en place l'année dernière, donc c'est encore assez frais. Parce que ce que j'ai pas dit, peut-être en intro, qui explique un peu pourquoi on en est là, c'est que moi, je suis le 6e président de l'asso depuis 2008. Et à part le premier président qui était l'un des fondateurs entre 2008 et 2015, après ça s'est quand même pas mal enchaîné.
Ah oui, c'est-à-dire que les 5 autres, ça a été entre 2015 et aujourd'hui.
Ouais.
Donc c'est 2 ans par président.
Ouais, grosso modo, je pense pas que c'est été gravé dans le marbre, mais en fait c'est l'habitude qui s'est mise en place. Peut-être aussi parce que 2 ans de présidence. Dans la fiche, je crois qu'il y avait en général la question. Nous, on n'a pas de salariés. On n'est que des bénévoles aussi. Donc, ça explique pourquoi. C'est-à-dire que nous, on est président, directeur général. on fait la vision, on fait le planning, on fait les. Voilà, on fait beaucoup de choses, quoi. C'est pas.
Et en même temps, c'est du coup là, ce que tu dis, c'est que ça, c'est une routine qui a commencé à se mettre en place, mais. C'est pas forcément.
Ouais. Oui. Ouais, tout à fait. En fait, c'était. En fait, quand on s'est rendu compte de ça avec Eric, le président que moi je remplace, et Valérie, qui était la présidente avant Eric, qui sont encore tous les deux dans l'asso et actifs. Effectivement, on s'est rendu compte de ça, et je pense que aucun de nous n'avait vraiment défini que c'était une règle tous les 2 ans. Et quand ils m'ont proposé de prendre la suite, on s'est dit que 2 ans, c'était pas mal, parce que tu commences à avoir... t'as le temps de mettre en place des actions, de les voir quand même aboutir. Et si tu restes dans l'asso après, ça enrichit aussi l'asso, parce que les personnes qui ont l'expérience sont toujours là. C'est pas une cassure à chaque fois. Il y a des gens qui ont disparu, hein, des anciens présidents qui sont plus dans l'asso, mais qui sont pas loin, qui restent dans la communauté. Si on a besoin, on pourrait les. Voilà, on se voit encore sur les événements. Donc c'est pas. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses cassures avec une équipe qui remplace vraiment avec un projet complètement différent, celle d'avant. Et puis les gens sont pas contents et puis ils s'en vont, quoi. Nous, on n'a pas eu de scission comme ça. Ou si c'est le cas, j'en ai pas connaissance parce que c'était il y a longtemps, quoi.
Mais en tout cas, ce que tu disais quand même tout à l'heure, c'est que c'est une asso qui s'est construite sur des activités qui aujourd'hui ne sont plus valables et qui a eu cette logique de devoir se renouveler, de devoir se questionner sur qu'est-ce que vous apportez à la communauté WordPress et que, en fait, de ce que j'en comprends, aujourd'hui, vous arrivez à percevoir ce que vous allez pouvoir précisément apporter parce que vous avez aussi fait ce travail interne de re-questionnement.
Oui, et même on va... enfin, ça, je vais le dire, je pense, pour la première fois, de façon publique, c'est pas forcément encore fait, mais on va même peut-être boucler la boucle, c'est-à-dire qu'à l'origine, l'asso a été en partie créé pour lancer des événements. Et aujourd'hui, on n'en fait plus directement, ou en tout cas de petits, où on organise une partie des événements, mais pas la totalité. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à, pourquoi pas, de nouveau organiser des événements. Parce que finalement, c'est un temps fort, régulier, sur lequel on peut attirer du monde, des financeurs, des journalistes, et donc faire parler aussi de l'asso, même si après on déploie d'autres programmes. Il y a eu une sorte de période où on a laissé certains événements s'autonomiser. Aussi, bon, on n'a pas forcément eu le choix, parce que la fondation a pris le pas aussi là-dessus. Et eux, ils gèrent la marque WordPress, donc ils ont cette légitimité-là. Mais aussi, on a un peu lâché l'affaire aussi. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, OK, c'est très bien, il y a des événements autonomes. Peut-être que nous, on peut réfléchir à un autre type de format pour pas pour être en concurrence, mais pour compléter finalement, comme designer éthique, Ethics by Design, mais aussi maintenant les journées de l'éco-conception, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est pas forcément des choses qui rentrent en conflit l'une avec l'autre, mais voilà, qui se complètent. Donc nous, c'est un peu pareil, on réfléchit à ça. Et il y a un truc, c'est qu'à l'origine, l'asso a été créé pour le site, qui était à la base un wiki, qui est devenu un forum. On est en 2025. Les forums, c'est... J'adore ça, j'en ai fait longtemps, mais aujourd'hui, on est tous sur des formats différents, que ce soit des Slack, des Mattermost, plutôt de l'instantané, même si on peut l'utiliser en asynchrone. Mais les forums à l'ancienne, c'est quand même beaucoup moins utilisé.
Mais vous avez un Slack pour autant qui est assez gros.
Et il y a un Slack communautaire qui n'est pas directement géré par l'asso, mais c'est des gens de l'asso notamment qui sont de gros contributeurs. Sur lequel on a aussi un canal, et après on a un Slack interne pour notre organisation à nous. Oui, on fait de l'open source et puis on est aussi sur Slack. Ça, faut pas trop le dire. Mais en tout cas, on est plus acteur de plein d'initiatives sans forcément les gérer nous-mêmes, en fait. On diffuse et puis notre but, c'est que la communauté soit vivante, en fait. C'est pas tant que ça soit nous qui le fassions. C'est peut-être ça qui est notre ADN le plus important, en fait. Et c'est peut-être pas très courant.
Jason, ouais.
En fait, nous, on a fait un... Après l'AG l'année dernière, où on a renouvelé le CA, en tout cas, on a élargi largement le CA, et suite à quoi, moi, première réunion de CA, le bureau a été élu, donc j'ai été élu président à ce moment-là. On a publié, en fait, un communiqué pour expliquer notre vision de l'asso renouvelée. Et nous, on a expliqué en fait à la communauté qu'on est un outil à leur disposition. Donc, si les gens de la communauté veulent rentrer dans l'asso et la faire vivre, tant mieux. Mais on n'est pas la communauté. C'est-à-dire que, alors, même si pour des gens qui sont moins au courant, des fois ils confondent un peu différentes structures. Nous, on reste l'association WordPress francophone, WPFR, c'est l'outil de la communauté francophone. On deviendra ce que les gens veulent qu'on soit. S'ils s'investissent pour que le forum, on le refonde et on fasse une nouvelle interface, pourquoi pas. Si on veut relancer de nouveaux événements, ça peut être ça. Si on veut aider, on réfléchit, il y a un WordCamp à Toulouse en mai. On réfléchit à financer la vélotypie de l'événement pour qu'on puisse avoir à la fois pour en termes d'accessibilité, mais même en termes de suivi des conférences et puis des vidéos qui seront enregistrées, un meilleur sous-titrage, un meilleur suivi. On peut financer ça. Mais notre objectif, c'était plus de dire nous, on veut pas forcément que toute l'énergie soit dans un événement ou dans un seul programme, quoi. Comme designer éthique, on réfléchit à faire des bourses, à la contribution, des choses comme ça, d'avoir des budgets qui soient sectorisés et qui soient vraiment dédiés qu'à des une sorte de chair ou de, d'aider un freelance à faire de la contribution de façon permanente ou des choses comme ça. Mais ça, il faut que ça vienne aussi de la communauté. Il faut, pour ça, des gens s'investissent dans l'asso parce que la communauté n'a plus besoin de l'asso. Quoi. Quelque part, elle pourrait vivre sans nous. Ça ne changerait pas grand-chose. Enfin, ouais. Ça changerait des choses, mais ça ne ferait pas qu'il n'y a plus de communauté en France. Quoi.
Qu'est-ce qui est exactement je ne sais pas si on peut dire la même interprétation, mais en tout cas, designer éthique, c'est vrai qu'on a eu ce mouvement-là aussi, où on a même assumé l'idée que ce n'était pas à nous de nous occuper de cette communauté, et qu'on ne voulait pas être une asso communautaire, alors communautaire au sens de on développe une communauté. Et donc, c'est aussi ce qui fait que, oui, on a toujours pris un peu de recul sur ce Slack qu'on administre et qui est l'espace qu'on a développé, mais où en fait on n'a jamais non plus cherché à l'animer, à y mettre des moyens, à se dire que c'était notre rôle de le faire. Est-ce que ça dit peut-être aussi, et c'est intéressant par rapport aux questions que vous vous posez aujourd'hui à WordPress FR, c'est qu'est-ce qui se passe quand la raison d'être d'une association ne colle pas exactement avec ce que les gens ils font, ou plutôt ils projettent, ou de la manière dont ils s'en saisissent, quoi. Comment est-ce qu'on réconcilie les deux d'une certaine manière?
Ouais, par exemple, nous, on n'a pas d'incidence sur le développement de WordPress en tant que logiciel. On n'est pas comme Framasoft, par exemple, qui salarie les développeurs de Peertube, par exemple. Nous, notre but, c'est qu'en France, on développe des savoirs autour de WordPress, à quoi sert ce logiciel, pourquoi nous, on croit dur comme fer que c'est un logiciel émancipateur, avec ses limites. Hein. Il y a un système économique aussi autour, mais en tout cas, potentiellement, n'importe qui aujourd'hui, avec des savoirs techniques limités, peut mettre un site en ligne. Et ça, c'est quand même un progrès par rapport à comment fonctionnait le web il y a 20 ans où sans connaissances techniques, c'était quand même un peu plus compliqué. Il n'y avait pas juste un zip à télécharger, puis à mettre sur un hébergement. Et puis, ça fonctionnait quoi, en quelques clics. Et on pouvait publier après des pages, des posts. Ça, c'est WordPress, Drupal, Joomla, Typo3, voilà, quelques CMS comme ça qui ont popularisé ce fonctionnement-là. C'est open source, donc n'importe qui peut le réutiliser et en faire ce qu'il veut. Nous, à la différence de, par exemple, je reprends mon exemple de Wikimedia, mais c'est un peu, peut-être on est un peu semblable, toute proportion gardée, mais demain, si Wikimedia en France, l'association française n'agit plus, wikipedia.com en version française, .org, pardon, ça fonctionnera toujours. Nous, c'est un peu pareil, le logiciel, il sera toujours là demain. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'en France, on parle de WordPress et que les gens s'en saisissent. Voilà. En gros, c'est ça l'objectif.
Et du coup, ça amène peut-être la question qu'on peut traiter maintenant, justement, de l'international. Et donc, si on résume, aujourd'hui, WordPress, c'est un logiciel libre, donc WordPress.org.
Open source.
Alors, ouais, donc logiciel libre, logiciel open source.
C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être le moment de peut-être clarifier un
peu... Avant de parler de l'international, clarifions la différence entre le logiciel libre et le logiciel open source.
Je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler du libre, mais en tout cas, WordPress, c'est open source, parce que c'est une licence open source, GPL, voilà. Donc, n'importe qui peut le réutiliser et en faire ce qu'il veut. Je suis pas un spécialiste des licences mais à mon sens c'est pas un projet libre parce qu'il y a une dimension économique qui est prégnante quand même. D'autant qu'en termes de gouvernance, sans entrer trop dans les détails, c'est pas non plus si simple, surtout en ce moment où il y a quand même des conflits d'intérêts qui sont en train d'être levés, qui sont assez importants. Pour moi, c'est pas un logiciel totalement libre. Après, c'est on peut on peut on, On peut en vivre, débattre. On peut en faire ce qu'on veut, et puis après on pourra en débattre. Et je pense que je suis pas forcément le mieux outillé pour vous expliquer la différence entre les deux, et puis pour vous faire une analyse comparative. Mais après, c'est surtout que je pense qu'en termes de philosophie, je suis pas sûr que WordPress et son écosystème s'intègrent dans le monde du libre comme peut l'être.
Bon, en tout cas, au-delà de cette question-là de est-ce que c'est un logiciel open source ou est-ce que c'est un logiciel libre, dans tous les cas, effectivement, c'est un logiciel dont le code peut être utilisé, peut être modifié, peut être partagé, etc. Et en fait, ce logiciel est américain, ou en tout cas, le nom de domaine, la marque est américaine. Elle, si je ne dis pas de bêtises, est liée à la fondation WordPress, qui en fait, d'une certaine manière, est la structure qui va récupérer les fonds qui sont générés par WordPress à travers le monde, ou en tout cas qui sont financés dans cette structure-là. Et cette fondation, elle va ensuite financer l'organisation des événements WordPress à travers le monde, même en France, alors que pourtant en France, précisément, il existe WordPress FR.
C'est ça. En fait, il y a la fondation américaine, pour plein de raisons historiques, progressivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais de façon itérative, petit à petit a pris le pas, en fait, sur l'aspect logistique et financier et même responsabilité, quelque part, parce que aujourd'hui, quand on organise un meet-up ou un WordCamp, c'est pas l'organisateur local qui est responsable, c'est la fondation américaine. Alors, on pourra en débattre avec des juristes, mais en tout cas, d'un point de vue organisation, budget, non officiel pour la location des salles, etc., c'est pas l'organisateur en France qui est responsable, c'est la fondation américaine.
Et donc cet organisateur local, c'est qui ?
Ça va être des bénévoles, alors... Potentiellement, n'importe qui est un peu passionné par WordPress ou par qui a envie de monter un groupe local, donc ce qu'on appelle nous les meet-up. C'est pas juste dans le monde de WordPress, je pense que c'est plus tech de façon générale. Bon, c'est un anglicisme, un groupe local de support. N'importe qui peut le faire dans sa ville. Il y a sur le site communautaire wordpress.org un formulaire pour demander à être reconnu. Et après, en échange, on reçoit des goodies, un petit budget éventuellement pour louer une salle ou des choses comme ça. Et au bout de quelques années, si le groupe local est assez organisé, il peut faire un WordCamp. Donc là, c'est... Deux estrades avec des orateurs qui viennent toute la journée pendant un ou deux jours. Enfin, voilà, c'est un format qui est assez classique. L'avantage, c'est que ça se passe dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que c'est devenu cohérent aussi. Jusqu'en 2010, c'était encore chaque pays, chaque communauté faisait un peu ses trucs à sa sauce. Et donc, nous, en fait, on est un peu une anomalie parce qu'on reste la seule association locale de pays qui existe, alors qu'avant il y en avait en Italie, en Allemagne, etc. Et nous, peut-être par culture de l'association en France, peut-être par esprit franchouillard, parce qu'on voulait pas faire comme les autres, peut-être parce qu'on était plus organisé que d'autres, je sais pas, l'association a perduré, alors que ailleurs, en fait, elles se sont dissoutes, et puis c'est devenu, un petit peu des pays dans lesquels, en fait, les gens vont sur WordPress.org, la plateforme internationale, pour échanger, pour s'organiser. Et ils n'ont plus forcément une structure juridique locale, quoi.
Et peut-être justement, pour éclairer ça, est-ce que tu as un peu une vision de quel est le profil des personnes qui participent à la communauté, parce que justement là, en t'écoutant, je suis retombée sur une thèse de Gabriel Alcaraz, que j'ai toujours envie d'appeler David, donc je la trouvais pas, mais non, c'est bien Gabriel Alcaraz, qui a fait donc une thèse sur la sociologie un peu des personnes qui contribuent. Alors lui, c'était au logiciel libre, et si je me souviens bien de son intervention, c'est en fait ce qu'il montrait, c'est que je vais dire un chiffre au pif, mais en gros 80 à 90% des personnes qui en fait contribuent et sont actifs dans l'univers des logiciels, là en l'occurrence des logiciels libres, en fait, c'est des salariés d'entreprise, enfin, tu vois, dont c'est le métier à côté. Donc, ce qui est une culture du bénévolat qui est quand même hyper, hyper particulière, parce qu'en fait, précisément, c'est pas du bénévolat, c'est ça fait partie de ton taf d'enrichir et de contribuer à ce type de logiciel. Ce qui me fait penser, parce que là, je pense à d'autres personnes qui ont organisé des espèces d'événements un peu qui me semblent ressembler à ce dont tu parles, par exemple pour Big Blue Button, qui est aussi un logiciel livre de visio, où en fait l'idée c'est de rassembler des personnes, des utilisateurs, pour se dire tiens, comment est-ce qu'on peut contribuer ensemble pour améliorer le logiciel. Là, j'ai l'impression dans ce que tu dis qu'on est peut-être sur d'autres profils et sur d'autres objectifs de rassemblement, mais peut-être que je me trompe, si tu peux juste peut-être clarifier.
Il faudrait qu'on fasse une matrice de réseau comme les designers éthiques ont fait. C'est un peu compliqué dans notre cas parce que, en fait, il y a plusieurs cercles. C'est-à-dire, il y a la communauté au sens large, c'est-à-dire, enfin, même plutôt, on peut parler d'écosystème, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont de près ou de loin une utilisation de WordPress. Que ce soit au boulot, que ce soit dans leurs études, que ce soit pour un hobby. De près ou de loin, ils utilisent un site qui est motorisé par WordPress. Là, on a tout type de profil. Mais nous, on a organisé ça en trois catégories. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y a tous les professionnels dont leur activité est tout ou partie liée à WordPress. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon métier, je travaille en agence web. Notre agence ne fait que des sites avec WordPress, c'est-à-dire qu'on bosse à 100% de notre gagne-pain. Si demain WordPress ne fonctionne plus, n'évolue plus, et ben l'agence potentiellement est cool. Voilà. On ne fait que ça. Et dans l'agence, il y a des designers, il y a des UX, il y a des graphistes, il y a des développeurs, il y a des webmasters, il y a des chefs de projet, il y a... Moi, je suis chargé d'affaires. Enfin, voilà, il y a vraiment des métiers complètement différents. Il y a des gens qui vivent, comme moi, à 100% avec WordPress, et il y en a d'autres, c'est une partie de leur activité. C'est-à-dire, ils font des sites Internet, qu'ils soient en agence ou en freelance ou en ESN, etc. Un coup, ils vont utiliser, parce que le projet, ça se prête mieux, bah, ils vont utiliser Drupal. Un coup, ils vont utiliser, je sais pas moi, Eleventy, parce que c'est un site statique qu'ils vont faire. Un coup, ça va être du WordPress, je sais pas, ça va varier, quoi. Mais ils vont avoir une part de leur activité qui est significative et qui est liée à l'utilisation de WordPress, parce qu'ils vont faire de la formation, parce qu'ils vont... quand ils vont faire des maquettes, ils ne vont pas les faire de la même façon pour WordPress que pour d'autres logiciels, etc. Donc, il y a quand même une expertise qui est liée à l'utilisation de ce moteur de site. Là-dedans, on a les éditeurs de solutions aussi. Ça peut être des hébergeurs, ça peut être des gens qui font du produit. Il y a les formateurs, il y a les écoles, il peut y avoir tous les sociopros qui se rapprochent de près ou de loin à WordPress. Après, on va avoir les utilisateurs finaux, bah, ça peut être les particuliers, les gens en entreprise qui ne créent pas des sites, mais qui les utilisent.
Et dont tu penses qu'ils font partie de ta communauté,
etc. Et eux, c'est plus compliqué déjà, parce qu'ils n'ont pas forcément un sentiment d'appartenance à la communauté. Et pourtant, c'est eux qu'il faudrait qu'on cible beaucoup plus. Parce que finalement, c'est les décideurs qui font que derrière toute la chaîne d'experts peuvent vivre de ce logiciel. Parce que finalement, c'est eux les décideurs qui ont les budgets, qui vont demander des sites internet et les faire construire ou les faire maintenir. Et après, on a, nous, une troisième catégorie qui est plus les contributeurs au sens large, contributeurs, contributrices, qui sont souvent issus en fait, des deux autres groupes. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis chef de projet en agence. Je me suis spécialisé petit à petit à WordPress. J'ai trouvé le logiciel fun, cool. Ça m'a éclaté et je suis rentré dans l'asso. Et puis, j'ai commencé à contribuer. J'ai fait des événements, des conférences, etc. J'ai contribué à la traduction, au cœur, au développement. Alors, à ma petite échelle, hein, mais c'est-à-dire qu'on ne commence pas par être contributeur. dès le départ. C'est d'abord on est utilisateur et après on se dit bah ok, j'aimerais bien que ce logiciel il s'adapte pour mon besoin parce que par exemple au début il était développé qu'en anglais, il n'y avait pas de traduction en français et puis bah, il y a des gens en France qui se sont dit bah non, mais pour le vendre au service public, bah, il faut que ça soit traduit en français ou tout simplement en termes d'accessibilité d'utilisation. Si c'est en anglais, bah, déjà on perd une partie des utilisateurs potentiels. Et donc il y a les traducteurs, des développeurs, là, des graphistes, après il peut y avoir voilà, tous les métiers, on va dire, toutes les compétences liées au web. Mais aujourd'hui, ce qui est compliqué, enfin aujourd'hui, toucher les contributeurs, c'est facile parce qu'on se connaît, ça reste les gens qui vraiment sont engagés dans la contribution, on se connaît tous, quasiment, à peu de choses près, mais en gros, en tout cas, on va se rencontrer, parce que souvent, c'est les gens qui sont actifs et qui vont sur les événements. Toucher les pros, déjà, c'est plus compliqué parce qu'il y a ceux qui mettent WordPress en avant et ceux qui l'utilisent comme n'importe quel outil dans leur palette d'outils et il n'y a pas de jugement, c'est très bien. Mais ils ne sont pas forcément déjà, ils n'ont pas la fibre WordPress, enfin, ils ne voient pas forcément aussi le côté philosophique derrière de l'open source. Pas tous, en tout cas. Par contre, toucher les particuliers et les étudiants, là, ça devient chaud, quoi. Parce qu'on est loin aussi de leurs préoccupations, potentiellement. Parce que nous, on n'est pas une asso d'action recherche, on n'est pas dans ce monde déjà de la recherche et puis des écoles. On est plus du monde des freelances ou des agences, donc on n'est pas trop connecté, quoi. Et ça, c'est un peu les choses sur lesquelles ce serait bien qu'on travaille. Pour éviter que des solutions propriétaires viennent dans les écoles être enseignées. Et je ne dis pas que c'est WordPress qu'il faut mettre en avant, mais on discute aussi beaucoup avec les assos Drupal et Joomla en France, par exemple, ou Typo3, parce qu'on a un peu les mêmes types d'organisations, ou avec l'AFUP, qui est l'asso des professionnels de PHP, par exemple, donc plus développement, mais... On a un peu tous ce problème-là, que les gens en école sont un peu moins imprégnés des technologies web ouvertes. C'est aussi stratégique d'un point de vue rayonnement, comme je disais que c'était un des piliers, d'aller aussi expliquer l'intérêt en fait, de ces technos qui ne sont pas toujours les plus modernes ou les dernières qui viennent de sortir. Donc, ce n'est pas forcément celles qui attirent le plus à la sortie de l'école. Et pour autant, elles sont matures et il y a des raisons pour ça, quoi.
Oui, je voulais juste revenir parce que tout à l'heure, tu disais que du coup, vous aviez un peu augmenté votre CA en passant à 21 personnes. Et du coup, je me demandais s'il y avait une logique ou une articulation justement entre cette ouverture du CA et peut-être aussi les profils de personnes que vous avez ciblés dans ce CA. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y avait une stratégie un peu derrière et ce que tu es en train de dire sur comment se rapprocher en fait de ce que tu as appelé le public final, enfin les utilisateurs finaux où ça n'était pas du tout mis en place dans cette logique.
Bah, je pense que je vois où tu veux en venir. Non, on n'a pas de collège par utilisateur. Si c'est ça que tu avais en tête. En fait, l'ouverture du CA, ça s'est fait pendant le week-end de réflexion l'année dernière, où on s'est dit, là, on est 7. Sur les 7, on est 3-4 vraiment actifs. Et finalement, bah, l'asso, ça tourne que là-dessus, quoi, que sur ces quelques personnes. Et, de façon très... peut-être un peu spontané ou un peu, j'étais peut-être un peu dans la provoque, j'ai dit, bah, on n'a qu'à faire x3. Et donc, 7 x 3, bah, jusque-là, c'est bon. Et donc, en fait, on n'était pas beaucoup à ce week-end d'inter, en fait, on était 3-4, je crois, mais c'était suffisant pour agréger tous les mécontentements et toutes les frustrations de ces dernières années qu'on avait listées avant avec d'autres membres de l'asso, et puis de se dire, ok, on n'était que 3-4 aussi parce qu'on voilà, n'avait pas pu forcément tous se libérer. Et on a dit, OK, bah, à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai perdu le fil de mes pensées. Mais ce que je voulais dire, c'est que à partir de là, pourquoi 21? Parce que, bah, en fait, on s'est dit, Ok, si on veut faire tous ces nouveaux trucs qui nous frustrent depuis des années, redéfinir la structure, où on veut aller, la vision, etc., il va falloir plus de monde pour faire plus d'actions et puis pour avoir peut-être plus d'utilité aussi. Et tout simplement, bah, on a pris notre téléphone, on a appelé voilà, les collègues, les copains, les gens qui gravitent autour de nous depuis trop longtemps et qui nous disent « Ah, ce serait bien, comment je peux t'aider ?» Et puis nous, on ne savait pas parce que bah, du coup, on n'avait pas trop défini la vision. On voulait d'abord avoir la vision avant de dire aux gens bah, « Venez nous aider ». Et puis du coup, là, on s'est dit « Bon, bah ok, on appelle ». Et puis, bah, on a réussi à réunir une vingtaine de personnes. On avait aussi dans l'idée, parce qu'on est dans le monde de la tech et malheureusement en termes d'égalité, on n'est pas bon. On avait dans l'idée de faire émerger de nouveaux profils dans l'assaut. Alors, il n'y a pas une stratégie très aboutie, hein, mais bon, on est passé dans 7 membres du CA, on est passé d'une ou deux femmes à 3 ou 4 sur 21, donc le ratio est toujours pas bon, mais ça fait toujours plus de personnes sur les profils différents. Et puis c'est une itération. Enfin, le but c'est que ça s'améliore et puis de montrer l'exemple. Mais même si, bon, bah, au final, c'est un président à nouveau, mais ça va évoluer normalement. La gouvernance partagée, on n'y est pas encore, mais ce sera un chantier à l'avenir un jour ou l'autre. Mais en tout cas, petit à petit, d'essayer en tout cas de plus rester dans un petit cercle aussi, toujours un peu les mêmes personnes qui se connaissent trop bien. Et du coup, ça empêche aussi les gens de rentrer. Et puis là, il nous fallait du sang neuf et de montrer que d'un coup, on faisait x3 sur le CA. Ça montrait qu'il y avait une stratégie d'ouverture et qu'a priori, s'il y a 20 personnes qui ont pu rentrer, bah, après, ça sera plus facile pour renouveler aussi. Quoi. C'est pas plus abouti que ça comme approche. Quoi. Il fallait lancer quelque chose de nouveau. Quoi. En tout cas, c'était déjà une première...
Est-ce que vous observez justement que ça fonctionne? Au sens, est-ce que ces nouvelles personnes dans le CA, elles s'investissent dans l'association de manière à y mener des nouveaux projets?
Je dirais que ça dépend un peu des profils. Parce qu'on a vraiment... Par contre, il y a... Avant, c'était plus petit groupe d'initiés, on va dire, qui étaient dans le CA. Des gens qui avaient une légitimité, qui étaient contributeurs, qui étaient connus... voilà, ou qui s'étaient motivés pour rentrer. Là, on a fait rentrer aussi quelques personnes qui avaient, dès le départ, dit « Attention, moi, en termes de temps, en termes d'énergie, je suis limité. Par contre, sur telle expertise, si tu as des questions, je suis là. » Et ça, c'était vachement précieux aussi dans ma prise de présidence. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais...
Prise de poste,
ouais. Ouais, c'est pas un poste non plus, mais ça fait trop de travail. Mais il y a un peu de ça, c'était... On avait besoin de s'entourer de personnes qui nous apportaient de nouvelles choses. On a pris quelqu'un qui était à ce moment-là président d'une grosse ONG. Donc, assez loin de notre métier, mais par contre, en termes de structuration... potentiellement de professionnalisation progressive de l'asso, ils pouvaient nous apporter des choses. Des personnes qui travaillent au quotidien dans des contextes un peu différents des nôtres, pas juste en agence ou freelance, mais voilà, avec des contextes différents, où il y a des communautés différentes pour essayer d'ouvrir aussi l'asso et de lancer de nouveaux programmes. Voilà, donc ça, c'est... En tout cas, c'est la vision, après la pratique est toujours un peu différente. Je dirais qu'en termes de ratio, peut-être que le ratio d'actifs est toujours le même qu'avant, sauf que comme avant c'était 3 personnes sur 7, maintenant on est 21, donc il y a 10 actifs. Le but c'était de recréer un noyau aussi dur qui soit actif et qui ait un rôle d'administrateur, donc une légitimité aussi pour s'approprier l'asso et donc bouger les 50 autres adhérents qui, eux, sont parfois juste adhérents pour filer voilà, quelques dizaines d'euros à l'asso chaque année et puis et nous soutenir. Et ça, c'est très bien. Et d'autres, bah, il faut les motiver pour qu'ils deviennent actifs, quoi. Il faut les convertir pour qu'ils s'investissent. Et comme on a beaucoup de réseaux, bah, en fait, les gens autour de nous, ils sont là. C'est juste qu'on ne leur avait jamais vraiment demandé de s'investir.
Ouais.
Et c'est ça qui était finalement le côté le plus original de cette démarche, qui est pas très complexe non plus, mais c'était de se dire, en fait, à chaque fois qu'on a contacté quelqu'un pour dire « Tiens, tu veux pas cette année, on a l'AG qui arrive, viens au CA parce que t'es investi dans notre communauté au sens large, t'as des choses à dire. Peut-être tu organises déjà ta communauté locale à Toulouse ou à, je sais pas, à Paris ou autre. Bah, pourquoi t'es pas dans l'assaut, en fait, quelque part? Et puis, à chaque fois, on nous a dit, bah ouais, carrément, mais en fait, personne m'avait jamais proposé ou je savais pas que c'était possible. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, c'est pas grave, viens, on verra. Et puis déjà, ça lance un peu une démarche où, voilà, il y a plus de monde.
Alors, ça fait peut-être la transition justement sur le fait que toi, t'aies pris la présidence de l'association. Comment est-ce que toi, t'en es arrivé là, peut-être déjà? Et puis, c'était quoi les challenges, les défis, je sais pas comment il faut le dire, que t'as rencontré? Est-ce qu'il y a eu des points de tension, à la fois organisationnels et pratiques en particulier?
Moi, je suis membre de l'asso officiellement depuis 2020. Donc, je sais plus, ça devait être la période du Covid ou un truc comme ça. Et je m'embêtais et du coup, je suis entré dans l'asso. Ou alors, j'avais plus de temps et du coup, je sais pas. J'ai juste pris une adhésion pendant quelques années de soutien, vraiment. Juste, je payais mon adhésion et voilà, ça, je m'étais pas plus posé de questions que ça. Et en fait, j'ai fait la démarche de me pointer à une AG. Et du coup, comme il n'y avait pas grand monde au CA, bah, j'ai été élu au CA. Et en fait, je me suis fait embrigader. Enfin, je le voulais bien, mais... Et comme en plus, j'ai eu le malheur de dire que j'aimais bien faire des CR, parce que bah, mon métier, c'était d'être chef de projet encore récemment. Donc bah, des CR, ça fait partie de ma formation, quoi. Enfin, j'ai pas le choix, de toute façon. Et bah, du coup, j'ai été élu secrétaire. Donc, en fait, je me suis pointé comme ça en disant hey, coucou, je suis là. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai été au CA et secrétaire. Et donc, comme quoi, ça peut vite changer aussi. Je dis ça, mais je l'ai pas subi. Hein. Enfin, c'est, ça m'a surpris, mais en même temps, c'est intéressant parce que, vu de l'extérieur, souvent, les assos, elles ont l'air organisées, actives, etc. Et finalement, quand on s'intéresse aux organes de décision et qu'on vient aux réunions, ben on se dit mais comment vous réussissez à faire tout ça, alors que finalement, on a l'impression que c'est peut-être pas le bordel, mais des fois, c'est peut-être pas aussi organisé ou professionnel dans l'approche qu'on l'imagine. Parce que nous, on voit le résultat final d'un événement ou d'un truc assez... qu'on voit de loin, quoi. Et quand on s'intéresse et qu'on vient dans des réunions d'AG qui sont ouvertes dans la plupart des assos, même... Enfin, moi, je viens d'envoyer la convocation de la prochaine AG et je mets... Si vous n'êtes pas membre de l'asso, vous avez le droit de venir, juste vous n'aurez pas le droit de parler, vous n'aurez pas le droit de voter... Mais n'importe qui a le droit de venir, c'est ouvert.
On voit la date à Yael, elle adore aller à des AG d'asso dont elle n'est pas membre.
C'est vrai que j'en ai fait pas mal.
mais c'est intéressant et finalement, c'est là où je me suis dit mais, je vais essayer de filer un coup de main. Et puis finalement, de fil en aiguille, après 2-3 ans, je crois 3 ans de secrétariat, et ben, assez naturellement... Valérie, qui avait été présidente et qui était vice-présidente à ce moment-là, et Eric, qui était président et qui voulait passer la main parce que professionnellement, il avait des engagements. Et puis même, ça faisait à peu près 2-3 ans. Je ne sais plus exactement, j'ai plus les dates en tête, mais grosso modo, j'avais été dans son équipe. Et donc, ils m'ont dit tous les deux, bah, écoute, toi, tu es actif, tu as l'air d'en vouloir, tu as des idées. Tu nous challenges sur pas mal de trucs. Et je pense qu'ils se sont dit, bon, bah, vas-y, on va lui filer la présidence. Et puis, il verra que c'est pas si simple. Je pense qu'il y avait un petit côté à la fois de c'est cool et on a quelqu'un qui prend naturellement le relais. Et en même temps, un petit côté de vas-y, confronte-toi à la réalité de la présidence. Et puis tu verras que peut-être ce que tu nous remontes, c'est pas si simple à mettre en place.
Alors, donc, un an après.
Et donc là, un an après, On a révolutionné l'approche, mais on a quand même mis en place pas mal de choses. Le fait qu'Éric et Valérie, en particulier, restent dans l'asso et du coup décident de prendre le lead sur un groupe de travail, justement événementiel, fait aussi que ça a aidé à structurer, enfin, En fait, ça s'est bien complété. Même si, bon, au début, toujours un peu les petites tensions entre ancien président, nouveau président, sur OK, tu devrais faire comme ci, comme ça. Et puis, bah, quand toi, tu es nouveau, tu n'as pas forcément envie qu'on te dise comment tu dois faire dans ton poste, dans ton nouveau poste. Mais finalement, ça s'est fait sans trop d'accro. Il y a eu assez peu de problèmes. Après, comme on a pas mal de groupes de travail, finalement, non, c'était plus sur le côté administratif que ça a été relou. On parlait de la banque tout à l'heure, vite fait. Le plus gros cauchemar que j'ai rencontré cette année avec ma trésorière, Marjorie, c'est de récupérer des accès, de changer... Donc, c'était Eric qui était président, qui avait les accès à la banque. Notre trésorier historique avait quitté l'équipe il y a 2 ans à peu près. Du coup, Marjorie était devenue trésorière, mais un peu par intérim, elle était, je sais plus, vice-trésorière, quelque chose comme ça au début. Et puis finalement, c'est elle qui a hérité du poste. Et puis, le temps que ça s'officialise un peu, qu'on contacte l'agence qui était loin, dans un autre département, là où il y avait un ancien président. C'était en fait sa banque, sûrement à lui, donc il avait mis le compte de l'asso à cet endroit-là. Donc nous, on n'avait plus trop de relations avec la banque. Donc le temps qu'ils nous disent « mais vous êtes qui ?» et qu'on envoie un paquet de papiers impressionnants par la poste, enfin un truc...
Pour des gars de la tech, ça vous assure.
Non, mais enfin, ouais, moi, j'ai jamais envoyé de dossier papier par la poste. Enfin, c'est pas. c'est dans ma vie, ça m'est jamais arrivé. Même pour mon emprunt maison, on a tout signé électroniquement. Enfin, eux, il fallait qu'on envoie des copies de cartes d'identité par la poste à l'agence dans les Landes. Alors que nous, on est aux quatre camps de la France, donc il fallait que je centralise, que les copains m'envoient les trucs, enfin, tous leurs documents. Que moi, après, j'imprime, que je mette dans une enveloppe et que je l'envoie. Enfin, c'est, ça paraît bête dit comme ça, mais moi, ça m'est... Enfin, je comprenais pas, en fait. C'était pas... Oui, en plus, je bosse dans le web, donc...
Pourquoi pas juste avoir...
Et donc, ça fait un an, et on n'a toujours pas changé de banque, parce que...
C'est une volonté, quand même.
En fait, on aimerait bien les quitter, sauf que... les néobanques et compagnie auxquelles on est plus habitués, il n'y a pas de livret.
Livret A.
Notamment de livret A pour mettre nos sous. Donc, ils ouvrent des comptes chèques, ça, il n'y a pas de problème, enfin, les comptes courants. Par contre, les livrets, c'est mort. Ou alors, c'est sous les conditions de livrets professionnels qui coûtent une blinde. Ou alors, les cartes bleues coûtent 50 balles le mois, alors que nous, on a, encore une fois, on a des flux de 10 000 euros par an, quoi. C'est pas non plus, c'est pas si impressionnant que ça. Donc une partie, c'est des remboursements par des sociétés qui nous remboursent des frais que nous on a engagés pour des événements, par exemple. Donc ça fait vraiment en CB, on l'utilise même pas tous les mois, par exemple. Donc payer 50 balles par mois pour une CB, enfin c'était un peu délirant. Et on a essayé des banques plus, pardon, ouais, après je te laisse, Yael, mais on a essayé des banques plus traditionnel, je veux pas forcément les citer parce que c'était peut-être juste la personne qu'on a eue et c'est pas forcément la banque le problème, mais et ça a été, c'est pareil, pour changer de banque en tant qu'asso, c'était il fallait réexpliquer qui on est, envoyer, enfin c'était pire que les déclarations à la préfecture pour changement de président, qui sont déjà pas simples, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire parce que nous on n'est pas des pros, quoi. Mais ouais, c'était vraiment... Du coup, on a abandonné pour l'instant. Pour l'instant, on a mis en sommeil. On a dit, bon, on laisse passer l'AG. Puis après, on fera une lettre à la trésorerie en disant, maintenant, tu t'en charges et je ne veux plus en entendre parler. Tu me diras quand c'est fait, du moment que c'est à peu près la même chose. Et puis,
une lettre que tu enverras par la poste.
Ouais, non, nous, ça va.
En recommandé.
Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en plus, c'est des frais, quoi. Enfin, c'est pas grand-chose, mais c'est, il faut... Enfin, puis du temps.
Alors, j'ai découvert que tu pouvais demander à la poste de t'imprimer les documents PDF que tu as.
Ouais, c'est ça. Tu peux aller sur leur site, leur faire imprimer et leur demander de l'envoyer à ta place. Non, mais...
Non, je vais dire, effectivement, la banque, je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode dessus. Et c'est vrai que pour les questions de passation, là, moi, je l'ai fait il y a un an aussi. Et c'était assez impressionnant, mine de rien, parce qu'on est venu à 5. Nous, on a pu se déplacer puisque c'était à Paris, donc c'était plus simple. Et tout le monde était à Paris, donc il n'y avait pas ce côté comme toi, là, complètement éclaté en France, pour signer officiellement la passation et la clôture de la caisse de l'ancienne équipe, etc. Ou d'ailleurs, ce qui était un peu bizarre, c'est que moi, je n'ai servi à rien pendant toute la réunion. C'est à peine si la personne m'a regardé. Je sais, j'étais là genre, OK, c'est pas grave. Alors que j'étais bien sûr l'ancienne trésorière et pendant quand même plus de 6 ans. Mais bon, c'était visiblement... Non, mais je faisais juste la parenthèse pour dire quand même, vous avez fait le choix de garder une CB parce qu'on n'est pas du tout obligé. Enfin, et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse un épisode parce que là, j'ai une association qui s'est créée il n'y a pas très longtemps et où la banque voulait absolument leur faire payer, je crois, plus de 10 euros par mois, alors qu'en fait, on peut tout à fait créer une asso gratuitement, sans carte bleue, sans rien, comme tu dis, juste un compte chèque avec une carte de dépôt et normalement sans frais associés. Donc, prochain épisode à faire.
Nous, c'est un choix, en deux secondes là-dessus, sur la CB, c'est un choix pratique et pour ne pas faire peser les dépenses sur les épaules des adhérents. C'est-à-dire que il y a certaines dépenses, on pourrait dire à l'adhérent, OK, tu payes, après on te rembourse sur une note de frais. Sauf que quand c'est des choses qui vont dépasser voilà, quelques centaines d'euros, au-delà même de l'aspect organisationnel, ça, en termes d'approche, je trouve que ça se fait pas. Si c'est des frais de fonctionnement, c'est à l'assaut de les payer elle-même. Et nous, dans le cadre de notre activité quand même liée au web, on a des achats de licences, de logiciels. De toute façon, il y a des choses, Zoom par exemple, ou je sais pas, j'ai pas forcément d'autres exemples en tête, mais Slack c'est différent parce qu'on le paye pas, mais on a, en tant qu'asso, on a une dérogation. Mais par contre, Zoom, qui est notre logiciel de visio par exemple, tu peux pas ne pas payer par CB. Il n'y a pas le choix, de toute façon. À moins d'avoir vraiment je sais pas, peut-être un volume important où tu vas peut-être avoir des paiements par...
Souvent, tu peux demander par virement. Enfin, moi, je sais qu'on l'a beaucoup fait.
Pour des petits... De toute façon, pour des logiciels à l'étranger, en dehors de l'Europe, déjà, ça va être des paiements en dollars. Donc, une CB, de toute façon, on va se prendre des frais dessus. Donc, il n'y a pas trop d'autres choix. Et puis, des virements internationaux, dans tous les cas, ça va coûter quelque chose. Donc, une CB, ça reste le plus pratique. Après, nous, dans notre cas, comme on fait des virements aussi à la fondation, quand on fait du sponsoring d'événements locaux, la fondation est aux US, en dollars. Donc déjà, notre petite agence dans les Landes, quand je leur ai dit on est Nasso, nous, on a la spécificité d'avoir notre siège à Paris, parce qu'on a, comme n'importe qui, on est dans une société d'immatriculation, enfin de domiciliation, pardon. On a une boîte aux lettres qui m'envoie après un PDF scanné du peu de lettres qu'on reçoit. Et déjà, voilà, on leur disait, moi j'habite à Cognac, en Charente, l'asso, son siège est à Paris, la trésorière, elle est à Tours. Et déjà, quand j'ai appelé la banque pour leur expliquer ça, ils m'ont dit, mais là c'est trop louche son affaire, c'est trop bizarre. Et donc, ça fait un an et voilà, et puis on procrastine le changement, et puis on n'a pas eu trop envie de s'en occuper. On a essayé avec une ou deux banques, et puis ça avait l'air d'être super compliqué. Il y a pas comme pour... Alors déjà, moi je savais pas, mais c'est pas comme pour les particuliers. Il y a pas le portage de compte vers une autre banque, ça n'existe pas pour les pros et pour les assos. Alors que ça, c'est quand même un super système à titre personnel pour changer de banque. C'est eux qui font les démarches de clôture et puis de changement des virements, etc. Ça se fait très facilement. Pour une asso, c'est pas du tout le cas. Donc ouais, il fallait un dossier super épais avec tout un tas d'informations, de l'historique et compagnie, et de pourquoi et comment on fait nos dépenses. Alors que nous, on a un tout petit budget. J'imagine pour des grosses assos, ça doit être l'enfer.
Bah pour le coup, les grandes assos peuvent avoir les moyens d'avoir des comptes pro et donc des néobanques. Et donc, tout ce qui va avec en termes de simplification des procédures.
Puis nous, on n'a pas d'experts comptables qui nous conseillent, peut-être. Ça, c'est peut-être ce qui change à un moment.
Il paraît qu'à Paris, il y a une agence de je ne sais plus quelle banque qui est spécialisée dans les assos et qui n'a que des assos. On s'était dit qu'il fallait qu'on aille la voir à un moment.
Ben, nous, on avait contacté le Crédit Coopératif, par exemple, qui a quand même pignon sur rue et qui dit qu'il bosse beaucoup avec l'ESS. Et alors, leur process n'était pas du tout informatisé, donc ça nous avait un peu fait fuir. Et voilà, donc peut-être aussi que c'est nos attentes qui sont irréalistes et que des banques digitalisées pour les assos, ça n'existe pas encore. Donc il y aura peut-être des gens qui nous écouteront et qui lanceront leur start-up ou leur banque, leur néo-banque pour assos. Ce serait pas mal.
Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand tu es une asso, dans les faits, tu dois tu ne veux pas payer trop cher pour des frais bancaires et donc tu te restreins aux banques traditionnelles qui effectivement vont avoir notamment des comptes chèques gratuits, voire même avec carte bancaire parfois gratuite pour la plupart, mais qui sont sur des process qui sont extrêmement, old school. Et sinon, bah, l'alternative, c'est effectivement les banques, les comptes pro d'entreprise qui sont beaucoup plus chers, mais qui vont offrir une grande souplesse. Et c'est vrai que l'entre-deux, il est quasi inexistant. Bon, en tout cas, il n'y a pas de forfait association dans les néobanques à notre connaissance, quoi.
Ouais, et dans les deux cas, c'est pas des spécialistes du monde de l'ESS ou des assos. Et c'est quand même... Moi, ça me dérangerait pas. Je fais peut-être ma liste au Père Noël, mais...
Faisons une liste au Père Noël.
Ça ne me dérangerait pas de payer un service, un prix qui est peut-être un peu plus élevé, mais en face, quand j'ai un besoin, et quand on parle de banque, c'est quand tu as un besoin, en général, c'est pas dans 6 mois. Tu as un besoin de trésor, tu as un besoin de lancer un événement, d'avoir une avance ou des choses comme ça. Ça ne me dérangerait pas en fait, de payer un peu plus cher si derrière, au moins, le service est correct. J'attends pas non plus d'une banque pour une asso qui a 10 000 euros de flux, d'avoir une appli ultra moderne, mais un minimum pour qu'on soit autonome. Et puis derrière, peut-être quand même d'avoir des gens en face, peut-être un conseiller tournant, mais au moins, quand tu as besoin, tu as un conseiller qui peut te dépanner. C'est ça.
La liste est dressée. Maintenant, si des banques ou des entrepreneurs nous écoutent,
nous, on changera de banque. Ce sera le projet pour cette année. Il va falloir qu'on s'y mette.
Je vois que ça fait 1h15 qu'on parle. On va peut-être pouvoir s'arrêter là.
Si, peut-être un petit complément sur la contribution en tant que salarié. Parce qu'il y a juste un truc que je peux dire à ce sujet-là, c'est que nous, dans notre communauté, il y a un truc international lié à WordPress qui s'appelle 5 pour le futur. Qui est en fait l'idée, et ça se rapproche des communs et de l'open source et du libre, etc. Et je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de monde, c'est que, avec toutes les limites qu'on peut trouver au système, il a été un petit peu, conceptualisé que pour que le logiciel WordPress perdure, il faudrait que chaque acteur qui fait partie de l'écosystème redonne 5% de son chiffre d'affaires, de son temps, de sa compétence à la communauté. Si tu es développeur, ça peut être 5% de ton temps pour développer le logiciel WordPress et pas juste tes projets qui utilisent le logiciel WordPress. Si tu es chef de projet, si tu es traducteur, si tu es, je sais pas, peu importe ton métier, ton expertise. Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus la tragédie des communs qui est un concept assez connu. Qui est conceptualisé dans les années 70, il me semble, qui n'est pas lié au web en particulier, mais plutôt à l'informatique générale. Et je pense que ça vient plus du monde de Linux et des systèmes d'opération. Mais en gros, cette tragédie des communs, c'est le fait qu'il y a toujours des gens qui profitent et des gens qui sont exploités pour, dans l'open source et le libre de façon générale. Et donc la réponse de Matt Mullenweg à ça, c'était de dire 5 for the future, donc 5 pour le futur, c'est si tout le monde s'y tient, le logiciel va continuer à être bien développé, il va continuer à être utilisé, il va continuer à être traduit. Par contre, si tout le monde ne fait que l'utiliser, et dans le sens... mauvais, c'est-à-dire sans vraiment le côté prédateur, de dire
l'exploiter, tiens, en fait.
Voilà, l'exploiter, c'est ah, ce logiciel, il est open source, ouais, on s'en fiche, il est gratuit, ah, ça c'est super, hop, moi je vais pouvoir vendre des prestations avec, et par contre je vais rien faire en échange pour que ça perdure. Et ça, pour le coup, c'est vraiment spécifique à notre communauté. En tout cas, ça a vraiment été appelé comme ça dans notre communauté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de sociétés, en tout cas jusqu'à la fin de l'année dernière, où il y a eu des changements dans la communauté, c'était appliqué dans pas mal de sociétés qui ont fait que WordPress était plus lié qu'à son fondateur ou à une ou deux sociétés. Mais il y avait quand même beaucoup de sociétés d'acteurs qui ont permis à ce logiciel de continuer à être développé et d'atteindre environ 40% des sites web dans le monde qui sont faits avec. Ben après, la stat est à prendre avec toutes les pincettes qu'on peut avoir. Mais, et ça, c'est quand même... Voilà. Et moi, par exemple, j'ai 5% de mon temps chaque semaine qui est dédié à la communauté dans ma boîte, par exemple.
Tu veux dire que c'est dans ta fiche de poste? Ou quand même pas formalisé à ce point?
Peut-être pas dans ma fiche de poste, mais c'est une stratégie que nous, on a validée à l'agence pour toutes les personnes qui le souhaitent. Donc, ça doit représenter, je ne sais pas, 5%, c'est quoi, 3 heures dans la semaine, si je ne dis pas de bêtises. Après, il y en a qui font plus comme moi, parce que bah, j'y passe aussi du temps perso, mais beaucoup plus que du temps de travail. Mais j'ai 3 heures, j'ai du coup quasiment une demi-journée qui est dédiée à la contribution. Voilà, et ça, c'est quand même significatif. C'est pour ça que, aussi dans l'asso, j'aimerais bien qu'on le valorise dans le budget, parce que bah, nous, on n'est que des professionnels du monde du développement informatique dans l'asso, quasiment. Je ne pense pas qu'il y ait des non-pros. Enfin, et du coup, par contre, nous, c'est sur nos... Autant moi, je suis salarié en agence, autant il y en a, c'est des freelances. Et bah, là, ça a une incidence directe sur le chiffre d'affaires, sur le travail qu'ils peuvent faire au quotidien. Moi, ce n'est pas que ça n'a pas d'incidence, mais... Bon, ma paye, à la fin du mois, ce sera la même chose, quoi. J'aurai pas de problème de trésor parce que j'ai pas rentré un projet. Voilà. Ça, c'est peut-être le truc un peu plus typique quand même aussi dans une des réponses de notre système à ce problème aussi de faire perdurer ce commun.
Ouais.
Qui peut être critiqué, qui est lié au monde professionnel et commercial et du coup, bon, qui pose plein d'autres questions, mais en tout cas, c'est un business model qui fonctionne depuis 20 ans, quoi.
Merci beaucoup, Jason. Et merci de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Assaut, le podcast par et pour les assauts. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement, comme d'habitude, à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par l'adresse mail hello@questions-asso.com que vous retrouverez dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Peertube. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis les ressources sur le site, si, Karl, je t'interpelle entre parenthèses. Donc, vous retrouverez quand même, on va s'actualiser, que nous avons évoqué durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut.
Question d'assaut.
Le podcast par et pour les assauts.